Enfin, le podcast qui donne la voix à la nouvelle génération engagée pour la transition écologique.
Le climat, les enjeux climatiques après un été rythmé par des catastrophes naturelles en série et un nouveau rapport du GIEC plus alarmiste que jamais.
Le climat en 2049, si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur.
Il faut qu'on agisse, on est dans la décennie qui peut faire changer les choses. Et si on se trompe, on s'en voudra. Je pense toute notre vie, on sera incapable de se regarder dans un miroir et de regarder nos enfants dans les yeux.
Hello, c'est Clémence, je suis actuellement face à l'océan. Il paraît si proche, en même temps il est si méconnu. Or il a son importance. Il est actuellement au cœur d'un des enjeux de la COP27 avec l'annonce de Macron d'interdire l'exploitation des fonds marins. Mon invité du jour est un amoureux de l'océan et a souhaité pallier à ce manque de connaissances grâce à la fondation Tara Océan. Après des études d'ingénieur, il décide d'allier ses connaissances scientifiques et son désir d'agir pour la planète et rejoint la fondation. Tara Océan, c'est une fondation qui soutient la recherche scientifique grâce à une goélette. À son bord, un ensemble de chercheurs, de scientifiques et également d'artistes embarquent pour plusieurs mois. Le but est d'étudier l'océan pour ensuite à leur retour démocratiser la connaissance et plaider pour sa protection. Romain était également père de deux enfants, et comme il le dit lui-même, avoir des enfants lui a fait prendre conscience de l'inaction, et non plus à l'horizon d'une vie humaine, mais via également celle de ses enfants. Ensemble, on a parlé du pouvoir des jeunes diplômés qui désertent et du rôle de l'océan en tant que puits de carbone. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira et vous donnera vous aussi envie de vous engager. Bonne écoute.
Bonjour, je m'appelle Romain Troublé, je suis directeur général de la fondation Tara Océan, et voilà, je père de deux enfants. Nemo et Fleur.
Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre la fondation Tara Océan ?
J'ai rejoint la fondation Tara Océan depuis le début de ce projet avec les fondateurs. C'est un projet qui réunissait ma passion pour l'océan, mon prisme scientifique et puis l'envie de faire quelque chose pour la planète, ça c'est sûr. Clairement, c'est ça, et ça fait 20 ans presque.
Et comment est votre engagement écologique ? Vous avez depuis longtemps fait beaucoup de voiles, et pourquoi l'écologie en particulier ?
Oui, je fais beaucoup de voiles dans ma vie. Je suis issu d'une famille de gens qui font du bateau depuis toujours. Donc, je suis né sur un bateau. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie sur un bateau et en mer. Et puis, j'ai grandi toute ma enfance dans la nature, en province, à la montagne, en Bourgogne, en Bretagne. Et donc, j'ai toujours été proche de cet environnement-là. Et sur ce projet Tara, il y avait ce bateau. Il y avait cette idée de faire un... De parler de l'océan, de parler des enjeux de la planète, et puis aussi de contribuer à sa connaissance et à sa protection. Donc c'est tout ça qui m'a fait rejoindre l'aventure, au tout début de cette aventure, il y a presque 20 ans.
Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir des enfants, ça a aussi joué dans votre prise de conscience écologique ?
Moi j'étais engagé depuis longtemps sur la nature, mais effectivement quand j'ai eu ma première fille, mon premier enfant et mon deuxième enfant aussi, j'ai aussi mis à réfléchir à notre planète, non pas à mon temps, à ma vie à moi, c'est-à-dire à 40-50 ans, mais plutôt à la vie de mes enfants, qui est telle qu'elle ait duré le siècle en fait, qui nous a emmenés jusqu'en 2100, que c'est leur vie à eux, ils vont sans doute voir 2100. Et donc d'un seul coup, j'ai pris conscience du tragique de l'inaction climatique, du tragique de cette histoire, si on ne faisait rien aujourd'hui. Parce que quelque part, j'allais être touché à travers mes enfants de ce qui allait se passer, donc c'est maintenant qu'il faut se bouger. Et je crois que mon énergie, elle vient de là. Tous les jours que je mets dans ces projets. Dans Tara, où on s'intéresse à beaucoup de problèmes de la planète, il n'y a souvent pas beaucoup de solutions à court terme. On voit toujours des problèmes, ça c'est sûr.
Sur Tara, quelle est, à votre échelle, votre plus grande victoire ?
D'avoir réussi à mener ce projet depuis 19 ans, que c'est toujours en vie, que c'est toujours existant. C'est un vrai challenge, hein, de pousser des projets comme ça, d'arriver à tenir un niveau d'excellence suffisant, d'arriver à avoir de l'impact scientifique des découvertes, de trouver des fonds pour le faire. Pour moi, c'est ça le challenge qu'on a relevé jusqu'à maintenant. Et on fêtera bientôt les 20 ans l'année prochaine, donc c'est une étape, ouais.
On peut peut-être revenir sur ce que c'est Tara. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde d'expliquer le principe de la goélette.
La fondation Tara Océan, c'est une fondation qui a pour but de soutenir la recherche scientifique, la connaissance des océans, qui est un écosystème majeur de la planète, hein, qui nous produit beaucoup de services écosystémiques, qu'on appelle comme ça, qui s'appelle la protéine produite par l'océan et la pêche notamment, dont on bénéficie tous les jours en apport en protéines pour beaucoup de personnes sur cette planète. C'est un écosystème qui stocke du carbone de l'atmosphère, donc quelque part qui estompe le changement climatique et qui aussi stocke de la chaleur, beaucoup. 90% de la chaleur émise jusqu'à maintenant par la suractivité a été stocké par l'océan, absorbé. On suffoquerait s'il n'était pas là, déjà. Et puis, c'est un océan qui produit beaucoup d'oxygène sur cette planète. Et donc, en cela, il est aussi vital pour le bien-être des écosystèmes et de la biodiversité en général. Donc, c'est important de le connaître mieux, c'est ce que fait Tara. On accompagne des chercheurs, on donne accès à la mer à pas mal de chercheurs, à des projets importants qui durent en général des missions qui vont en mer avec la goélette de 36 mètres qui est Tara, à peu près entre un an et trois ans d'affilée, et qui partagent cette connaissance avec le public, avec les écoles, avec le politique, avec le grand public, à travers la presse et les podcasts, comme aujourd'hui.
Oui. On peut peut-être revenir sur la chaleur émise et le fait que l'océan, c'est un puits de carbone. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Mmh. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi l'océan, c'est un puits de carbone ?
L'océan est un puits de carbone, on appelle ça comme ça. L'océan est un qui carbone à la fois par un phénomène physique, c'est-à-dire que l'eau de surface qui est pleine de carbone de l'atmosphère, qui dissout, par des courants verticaux vers le fond, est enfouie au fond des océans. Ça s'appelle la carbone physique, c'est très important. Puis il y a une pompe à carbone biologique qui, elle, dépend de la vie marine qui fait de la photosynthèse. Et la photosynthèse, vous savez que ça consomme du carbone pour produire l'oxygène et d'autres matériaux, d'autres molécules. Et donc, à travers cette photosynthèse, les organismes marins stockent beaucoup de carbone également.
Et par organisme marin, c'est le plancton principalement.
Le plancton, mais qui est ensuite la chaîne alimentaire, qui le carbone finalement, qui est d'abord produit par le plancton et notamment les micro-organismes végétaux. Ils sont mangés par la chaîne alimentaire et donc ils rentrent dans la chaîne alimentaire, ce carbone. Ou alors ils vivent très peu longtemps, ces organismes, ils meurent et ils coulent au fond de l'océan. Et une partie de ce carbone est stockée dans le sédiment du fond de l'océan pendant des millénaires.
On viendra ensuite un peu plus tard sur les fonds marins et l'enjeu de la protection des fonds marins. Sur vos grands défis aujourd'hui dans Tara Océan, c'est lesquels pour les prochaines années ? Quelle est une des grandes victoires que vous voulez faire passer ou un des grands projets ?
Il y a des grands défis, il y en a plein, il y en a tellement. Il faut les choisir, ces combats, ça c'est sûr. Il y a un vrai défi de connaissance, certes, des écosystèmes marins, de comment ça marche, comment fonctionne cette pompe à carbone, comment elle peut changer dans les changements actuels, comment elle peut être affectée par ce qui se passe, comment prédire mieux ce qui se passera. Mais au-delà de ça, je pense que l'enjeu principal est de faire comprendre l'importance de cet océan et de l'importance de sa bonne santé, en fait. Cette biodiversité marine, elle est vitale pour nous tous. Et toutes les actions qu'on mène, toutes les politiques qu'on adopte doivent prendre en compte la protection des écosystèmes en général, et en particulier de l'océan. Quelque part, pourquoi l'océan est impacté ? Parce qu'en fait, c'est le dernier réceptacle à tout ce qu'on met dans nos territoires. Finalement, tout coule vers la mer, un jour ou l'autre. Que ce soit les pesticides, que ce soit les plastiques, que ce soit tous les enjeux de pollution diverses et parfois même très, très invisibles, quoi, hein. Des molécules, par exemple. Et prendre conscience de ça. Ça, c'est, à mon avis, l'un des grands défis du siècle, c'est de faire comprendre de l'importance de cet écosystème pour la planète et pour l'humanité en particulier.
Et parmi les expéditions que vous avez réalisées, vous en avez notamment réalisé une en Antarctique. Mmh. Quel a été l'enjeu et quelles étaient vos observations ? Et pourquoi c'est important de le protéger ?
Effectivement, la Fondation a organisé une douzaine d'expéditions depuis une vingtaine d'années maintenant, certaines très longues, 3 à 4 ans. Pôle Nord, partout. Et récemment, on est passé en Antarctique pendant 2 mois, 3 mois, pour s'intéresser à ces écosystèmes qui sont assez singuliers, en fait, du reste de l'océan qu'on connaît. Par exemple, tout ce qu'a mesuré Tara depuis 10 ans maintenant. En Antarctique, on trouve un écosystème qu'on trouve nulle part ailleurs, qui est différent du sud de l'Arctique, dans les mêmes conditions de froid et de... Donc c'est vraiment un écosystème qui a évolué différemment du reste de la planète, séparé du reste de la planète par un courant particulier qui est le courant de l'océan Austral. Et cet écosystème, finalement, il est très important parce qu'il stocke beaucoup de carbone. Plus l'eau est froide, plus elle absorbe des gaz, oxygène ou CO2, et plus elle stocke du carbone. Et en Antarctique, en mer de Weddell en particulier, qui est une mer à l'est de la péninsule antarctique, au sud du Cap Horn, au sud de l'Atlantique. C'est une zone où l'océan stocke énormément de carbone, ce qui est un des plus gros, importants courants marins verticaux et qui va de la surface vers le fond de l'océan. Et donc là, il y a un stockage de carbone très important. Et donc, comprendre la biologie de ce qui se passe à cet endroit-là, comprendre la biodiversité, ce qu'elle fait, l'écosystème, ce qu'il fait, comment il le fait, c'est important. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Tara et toute une série de chercheurs du CNRS, d'un projet européen qui s'appelle Atlantéco pendant 2 mois là-bas.
Et donc dans cette région précise, c'est grâce à un courant, le courant qui va de la surface jusqu'aux profondeurs. En quoi le réchauffement climatique va avoir un impact sur ce courant ?
En fait, le réchauffement climatique va avoir un impact sur les masses d'eau. Les courants aujourd'hui dans la mer, on ne sait pas tous très bien, mais en fait le courant il est généré par les mêmes raisons que le vent est généré dans l'atmosphère qu'on connaît tous. Il est généré par des différences de température entre les masses d'eau qui ne se mélangent pas, du coup qui se courent après. Il est généré par des choses comme ça. Que quand on change la température, et ben, quand on affecte les températures de l'océan, on affecte aussi les courants. Quelle va être la réponse? Je ne peux pas vous dire. Par contre, la vie marine qui y a là-bas est très peu connue, et très peu étudiée jusqu'à maintenant. Les courants ont été très étudiés par pas mal de chercheurs. Et on a pris l'opportunité de déployer là-bas la goélette avec ses chercheurs et ses protocoles de recherche particuliers sur la biologie marine, la vie marine, pour y documenter un peu ce qui s'y passe au niveau de la vie dans ces courants marins. C'est important aussi parce qu'il y a aujourd'hui, depuis une dizaine d'années maintenant, au sein d'une instance internationale qui s'occupe des eaux antarctiques, qui s'appelle la CAMELAR, qui est une commission qui se réunit chaque année au mois d'octobre à Hobart, en Tasmanie, donc au sud de l'Australie. On a l'intention de protéger ces écosystèmes, protéger ces zones d'océan. Et une de ces zones de protection qui est plaidée par pas mal de pays, notamment par la France et par l'Europe, est la mer de Weddell, où Tara est allée. Donc c'était aussi une façon de plaider pour la connaissance de cette mer de Weddell, pour quelles raisons il faut la protéger, apporter des arguments davantage à la négociation, apporter davantage de connaissances, et de raisons pour lesquelles il faut vraiment le protéger.
Et aujourd'hui, vous avez d'ailleurs aussi...
C'est aussi politique, ouais. Cette histoire. Et c'est une décision qui se heurte chaque année depuis pas mal d'années maintenant à un veto de la Russie et de la Chine.
Parce qu'ils souhaitent l'utiliser pour des...
Ils souhaitent continuer à pêcher, ils souhaitent avoir une régulation différente que celle d'un moratoire et d'une réserve totale. D'autres visions de la protection des océans. L'un des gros sujets en Antarctique, c'est la pêche du krill. Le krill, c'est une espèce de petite crevette, des insectes de la mer, qui est très 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 abondant dans les eaux froides. C'est ce que mangent les baleines, c'est ce que mangent les manchots. C'est vraiment le repas de tout un écosystème et qui repose dessus. Très adapté à l'Antarctique et à ses eaux. Et ce krill aujourd'hui est pêché pour ses protéines qu'il représente en fait. Et, si l'homme vient aussi s'intéresser à cette chaîne alimentaire et à prélever la nourriture de ce que mange l'écosystème, on peut imaginer l'impact que ça peut avoir si on va trop loin. Si on en prend un peu, c'est pas un problème, mais si on va trop loin et qu'on en fait une pêche industrielle, il peut y avoir des impacts qu'on regrettera plus tard. Disparition des biomasses de manchots, de biodiversité antarctique, des baleines, des phoques, des qui mangent tout ça, des léopards de mer, enfin bref, tout l'écosystème qui en dépend peut disparaître. Donc on a déjà pas mal attaqué les écosystèmes terrestres. Peut-être que le 21e siècle, en tout cas c'est ce que j'espère, c'est l'appel de mes voeux, c'est qu'on se préoccupe de protéger l'écosystème marin, quoi. De ne pas recommencer la même chose.
Et d'ailleurs, vous venez de lancer Tara Océan Polar.
Tara, une station polaire arctique, ouais, pour le pôle Nord cette fois-ci.
Et pour le pôle Nord, quels sont vos enjeux et pourquoi vous avez décidé de lancer cette expédition en particulier?
L'enjeu est de connaissance aussi du pôle Nord, très peu connu, mais on en parlera plus à partir de cet été.
Ok. Et du coup, pour revenir un peu sur les défis du 21e siècle, on en a parlé de l'aspect de l'océan qui a un puits de carbone, notamment dans les profondeurs maritimes. Il y a un grand sujet aujourd'hui politique qui est l'exploration et l'exploitation des fonds marins, qui a notamment été défendu par Macron.
Alors le président français il y a deux sujets. Le président français a défendu l'importance de l'exploration des fonds marins et de l'exploitation dans les eaux françaises.
Oui.
Le gros sujet aujourd'hui de négociation internationale, c'est l'exploitation dans les eaux internationales, qui représente presque la moitié du globe en surface. Sur l'exploration, évidemment qu'il y a besoin d'explorer. évidemment qu'au fond de la mer, on peut trouver des choses très intéressantes pour l'industrie, pour mieux fabriquer demain. Notamment, au fond de la mer, il y a certains endroits, des endroits où on trouve la vie, qu'on ne pensait pas trouver, qu'on a découvert il y a 30 ans maintenant. On ne pensait pas trouver de vie là-bas, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie. Et en fait, il y a des vies marines autour de sources thermales, hydrothermales marines, qui amènent de l'eau chaude et de l'énergie. Et il y a non pas de la photosynthèse, mais il y a de la chimiosynthèse. C'est-à-dire que la vie est créée autour d'équilibre chimique. Et tout cet enjeu-là, on ne connaît rien. L'homme, l'humanité, aujourd'hui, est totalement aveugle de ce que c'est que cette chimiosynthèse. Sur quel gène, sur quel mécanisme, sur quel organisme ça se construit. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre demain pour non plus faire du verre, faire du verre qu'on utilise partout aujourd'hui dans nos villes et nos habitats, à partir de sable qu'on chauffe à 1800 degrés, qui consomme beaucoup de CO2 et beaucoup d'énergie, mais de la chimiosynthèse qui synthétise tout ça à 2 degrés. Il y a toute une chose, des choses à découvrir là-bas qui me semblent importantes. Ça, c'est une chose. Après, il y a la question de l'exploitation, notamment des minerais, qui, à mon sens, si on ne le régule pas, ça avec des études d'impact très fortes et des contrôles très forts, peuvent venir finalement détruire cette vie marine qui fait la chimiosynthèse, qui fait toute cette nouvelle technologie du vivant. Une vraie évolution, une vraie part entière de l'arbre de la vie, de l'évolution de la vie sur la planète. Ben, on va venir détruire tous ces écosystèmes, on peut prendre le risque d'affecter finalement de scier la branche sur laquelle on est assis, où on aurait pu découvrir beaucoup de choses. Donc moi je pense qu'il faut laisser la décennie des Nations Unies pour les sciences marines se passer maintenant, là, 10 ans jusqu'à 2030, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a au fond de l'océan et qu'est-ce qu'on a à protéger. Et d'essayer d'avoir une lecture plus précise de ce qu'il faut protéger et ce qu'il faut moins protéger. Et donc moi je plaide pour ce moratoire pendant 10 ans sur l'exploitation des fonds. Par contre je pense qu'il faut explorer. Et il faut trouver les fonds pour explorer. Et c'est clair que si on dit aux gens, on explore, vous financez l'exploration mais vous ne pourrez pas exploiter demain, ils ne financeront jamais l'exploration. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver, un développement durable qu'il faut trouver à ce moment-là.
Et vous n'avez pas peur qu'en explorant du coup ces fonds marins, on dégage du carbone qui est stocké aujourd'hui
Non, je pense pas que ce soit un... Explorer, ça me semble pas. Moi, je parle d'exploration de la vie qui vit dans l'écosystème. Effectivement, si on explore, si on fait des carottages, bon, on en fait partout dans la planète aujourd'hui. Ça n'aura pas trop d'impact. Ce sera très ciblé en fait. Ça n'a pas trop d'impact. Mais sur le contexte en général de l'exploitation des fonds marins à l'échelle internationale, il faut bien se poser la question de savoir si on ne peut pas d'abord mieux recycler ce qu'on a déjà extrait du terrestre, de la terre, sur les continents.
C'est-à-dire
On a déjà tiré beaucoup de métaux.
Ouais.
Chaque jour, on sort du cobalt, du nickel. Ouais. Comment trouver les moyens et travailler plutôt et investir davantage sur le recyclage de ces matériaux pour éviter de les jeter à la fin de leur utilisation? Comment on recycle les batteries? Comment on recycle tous ces matériaux très rares demain dans l'économie? Et je pense que le montant qu'il faut mettre en investissement pour faire ça, c'est surtout moins important du montant qu'il faut pour aller chercher des minéraux au fond de la mer à 2000 mètres de profondeur. Donc ça, c'est une question de choix, de véritable choix, en fait, politique de la communauté internationale.
Et le moratoire, aujourd'hui, il a été signé par l'Espagne, notamment. Est-ce qu'il y a d'autres pays européens assez forts qui se sont engagés?
Je ne vais pas vous dire, je n'ai pas regardé.
Okay.
Ce n'est pas un sujet sur lequel Tara est très expert, parce que c'est un projet de grand fonds, et on est incapable d'aller sur les grands fonds avec la golette et les moyens qu'on a aujourd'hui, la fondation.
Et aujourd'hui, en termes... technique, on est capable, à l'échelle humaine, d'aller dans les grands fonds?
Oui, il y a déjà des projets d'exploration qui se passent dans les territoires qui ont vendu des permis, notamment à la Chine, au Vanuatu notamment, qui déjà ont mis en place des systèmes de dragage des fonds pour trouver des minerais. Ça existe déjà, c'est déjà l'état de... Je pense que c'est encore des tests, mais ça existe déjà. Mais le coût de tout ça est aussi... Et je pense que si on devait aller vers là demain, dans le futur, disons dans les 10 ou 20 ans qui viennent... il est primordial qu'il y ait une tierce partie de contrôle qui puisse être à mesure techniquement et qui ait les moyens de surveiller ce qui se passe au fond, de débarquer n'importe quand à 2000 mètres de profondeur et de voir ce que fait l'industrie, ce que font l'extraction, comment l'étude d'impact ont été respectées.
C'est le problème de l'océan, c'est que c'est très dur à réguler.
Très dur à surveiller en fait.
À surveiller, ouais.
Ça devient de plus en plus facile parce que le satellite maintenant offre des possibilités qu'on n'avait pas avant, permet de contrôler, de voir qui fait quoi et qui est où, surtout. Ça commence à être assez efficace. Mais le fond de la mer, tout ce qui est sous la surface, là, c'est loin des yeux, loin de tout, quoi. Et je suis convaincu que, en tout cas moi, tant qu'il y aura pas, tant que ce sera l'exploitant qui doit faire l'étude d'impact et garantir que ce qu'il fait, c'est ce qui est dans les clous des études d'impact, je pense qu'on ne peut pas aller au fond. Il faut une tiers partie.
Là, vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est l'aspect international de tout ça. C'est très bien si l'Europe signe un moratoire en disant bah, on n'y va pas pendant 10 ans, mais si à côté de ça, la Chine et la Russie lancent des explorations, ça peut aussi être très grave et très dangereux. Et comment vous voyez, qu'est-ce que vous voyez comme solution pour faire en sorte qu'à l'international, il y a un...
Bah, chaque pays est souverain de ce qu'il fait dans son territoire. Donc on va pas... Aucun pays n'est légitime pour dire à un tiers bah, « vous devriez arrêter de faire le prélèvement dans votre pays, dans votre territoire. » Personne ne vous dit ce qu'il faut faire dans votre appartement. Donc c'est pareil pour l'aspect international. Si les Vanuatu veulent vendre des permis, c'est leur droit. Des permis d'exploitation à d'autres pays, c'est leur droit en fait. On ne peut rien faire. À part essayer de les convaincre qu'ils gagneraient plus à protéger leur écosystème plutôt que de l'exploiter, mais... Aujourd'hui, il n'y a pas de levier qui permette d'empêcher ça. Bien sûr, il y en a à l'international. Sur les droits de la communauté internationale, à l'ONU, qui régule notamment la haute mer, tout ce qui est au-delà des juridictions nationales. Là, il y a un débat aujourd'hui très vif sur ce sujet d'exploration et d'exploitation des fonds de marins. L'agence qui a été créée pour ça il y a 40 ans bientôt, s'appelle l'International Seabed Authority, elle est là pour se mettre d'accord sur comment on fait. Il y a dans les négociations sur la haute mer, il y a des enjeux de protection d'aires marines protégées en haute mer, qui vont être définissables dans le futur, qui vont protéger des zones d'océan contre telle ou telle agression ou stress possible, que ce soit la pêche, que ce soit l'extraction minière, que ce soit... Et c'est un débat qui est en cours, c'est un traité qui n'est pas encore signé, qui est en négociation depuis 10 ans maintenant, et qui, j'espère, verra la fin de sa négo et la signature du traité cette année ou l'année prochaine.
Vous voulez aborder rapidement sur le recyclage, vous êtes également allé sur le 7e continent avec Tara Océan. Qu'est-ce que vous avez pu y aborder et pour vous, quel est le grand enjeu face à tous ces déchets?
Nous, ça fait depuis 2011 qu'on s'intéresse, qu'on a pris conscience de cette pollution marine. Hein. C'était juste après les Américains documentent ce fameux continent de plastique au large de la Californie, entre Hawaï et la Californie. Quand on est marin, quand on est en mer, ce qu'on constate, c'est qu'on est totalement impuissant de l'ampleur de ce qu'on y trouve, surtout pas par le fait du quantité, nombre de plastique, mais la taille de ces plastiques. Beaucoup de ces plastiques qu'on trouve, c'est des microplastiques, il y en a partout. En Antarctique, au pôle Nord, on en a trouvé partout, etc. Depuis 10 ans maintenant, plus de 10 ans. Et quand on voit ça, qu'on est marin sur un bateau, on se dit, bah, la solution, elle n'est pas là, en fait. La solution, elle est à terre, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'économie circulaire et de comment circulariser davantage tous les matériaux qu'on utilise sur notre planète, dans notre économie. Je parle de plastique, mais c'est vrai pour n'importe quel produit, en fait. Hein. Comment on arrive à recycler davantage ce qu'on utilise aujourd'hui, les matériaux notamment, et comment on arrive à consommer moins de plastique dans nos vies de tous les jours, dans notre achat. Et le problème, c'est qu'on a inventé le plastique parce qu'on a, pas mal d'années maintenant, quelques décennies maintenant, on a décidé que finalement la vente au détail, ça coûtait trop cher en salaire de gens qui vendent, en vendeurs et tout. Donc on a tout mis en tout plastique pour le vendre en gros, dans des rayons en fait. Donc tout ce modèle est à revoir. C'est colossal, c'est abyssal. Mais il y a une partie de ce plastique, donc notamment la moitié des plastiques produits chaque année, qui est utilisée pour l'emballage. Comment on trouve la solution demain pour arrêter cette folie? C'est tout l'enjeu, à mon avis, de la pollution de la mer. Il se trouve là. Il se trouve pas tant au milieu de l'océan. Et voilà, il y a un vrai enjeu de stopper ça en amont. Et il y a un enjeu de l'expliquer. Et c'est en cela que les nettoyages de plage qu'on peut faire partout, c'est pédagogique, en fait. C'est très important de montrer. Je suis pas sûr qu'on puisse faire l'économie de montrer aux gens, par eux-mêmes, ce qu'ils trouvent sur les berges de plage, c'est l'ampleur de cette dépollution. Les deux choses.
Si tu rencontrais un jeune diplômé, qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour finir?
J'aimerais lui dire que c'est vous qui avez le pouvoir. Jeune diplômé, quand vous choisissez votre cursus, vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez quand vous dites à des boîtes, mais non, mais moi, c'est en fait votre boîte, elle m'intéresse pas parce que le secteur, il est pourri, le secteur, c'est pas l'avenir, ou les pratiques chez vous, ça me convient pas. Votre engagement de votre entreprise pour la société, ça me convient pas. Vous posez un problème majeur aux entreprises. Quel est leur purpose? Pourquoi elles sont là? Pas que pour faire du business, c'est fini ces temps-là. Aujourd'hui, elles doivent aussi avoir une contribution pour le social, pour la société en général. Et donc, les challenger sur ça, c'est le moteur systémique de ce qu'on va devoir faire. Et On a tellement de choses à faire, la barrière est tellement haute à passer pour les enjeux climatiques, de pollution, etc., d'inclusion, de sociale, etc., que les changements doivent tous être systémiques. Toute décision aujourd'hui, toute politique doit passer au crible de l'accord de Paris, du respect des équilibres sociaux, etc., etc. C'est de systémique. Et donc, vous qui entrez sur le marché de l'emploi, quand vous challengez les DRH dans votre recrutement sur okay, bah, qu'est-ce que vous fait l'entreprise sur ces enjeux-là, quelle est votre sincérité, quelle part de financement vous allouez à ce sujet-là chaque année, vous faites changer la société, en fait. Tout simplement. Donc vous avez le pouvoir, c'est fou. Et on ne s'en rend pas compte quand on a 23 ans, qu'on sort de hautes études, de grandes études, ou même plus jeune. Mais de plus en plus, c'est une vraie problématique posée et à laquelle elle doit répondre.
Super, merci beaucoup.
Go for it.
Vous venez d'écouter Enfin. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et surtout donné enfin envie de vous engager. Si c'est le cas, je compte sur vous pour en parler autour de vous, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles. Si vous souhaitez être le prochain invité du podcast ou simplement nous faire part de vos retours, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre page Instagram Enfin Podcast.